c'est costaud. Ouais,
on va jouer avec les archives d'Europe 1.
Bien entendu, sur Europe 1.
Il faut me donner 4 bonnes réponses pour tenter un jackpot à 800 euros. Aujourd'hui, on va retrouver l'humour ravageur de Laurent Baffy. Nous sommes en 2009. Il présente une émission de radio hebdomadaire sur Europe 1 qui a la particularité de changer de nom à chaque diffusion.
C'est vrai, c'est drôle.
Parfois, elle s'appelle C'est quoi ce bordel ? Parfois, Coloscopie. Bref, c'est du Baffy. Écoutez Laurent Baffy, appelle l'Élysée.
Laurent Baffy sur Europe 1. Ça n'aurait jamais dû arriver.
Président de la République, bonsoir.
Bonsoir, j'aurais le président, s'il vous plaît.
Oui, c'est à quel sujet ?
C'est personnel, c'est un ami.
C'est-à-dire, monsieur ?
Bah, personnel, vous ne comprenez pas le sens du mot personnel, monsieur ?
Non, je suis obligé de présenter l'appel, monsieur.
C'est une plaisanterie,
monsieur ? Je ne sais pas d'où vient la plaisanterie, je ne sais pas si c'est vous qui l'a faite ou si c'est moi.
Ah non, monsieur, non, monsieur, vous...
Mais à mon avis, c'est vous.
D'abord, vous allez quitter ce ton agressif.
Mais je ne suis pas agressif, monsieur.
Si, allez, passez-moi Nicolas, on a perdu assez de temps comme ça.
Oui, non, mais je crois que vous avez assez perdu de temps comme ça, vous n'aurez pas, monsieur le président.
Vous êtes censé être au standard et passer les appels. D'où vous vient cette incompétence ?
Oh la vache ! Alors, vous l'avez compris, il appelle l'Élysée pour joindre Nicolas Sarkozy. Mais pourquoi il veut parler au président Sarkozy ? Voilà. Est-ce que c'est pour vendre au président des talonnettes ? Est-ce que c'est pour vérifier que son invité, Fabrice Santoro, ne ment pas quand il déclare jouer au tennis avec le président ? Ou est-ce que c'est pour demander au président pour qui il va voter à la prochaine présidentielle ?
Oh, les trois sont possibles, hein, venant de Baffy.
Il y en a une qui est...
Émilie, à votre avis, Émilie, ouais.
Peut-être la dernière, je dirais.
Il y en a eu, il recevait des invités, Laurent Baffy.
Ouais, c'est vrai. Mmh.
Il aurait demandé au président pour qui il va voter à la prochaine présidence. Il n'y a pas beaucoup de suspense quand même.
Non, mais Anissa, sa piste, elle est bonne. C'est, on imagine bien l'invité dire ça et lui dire on va vérifier tout de suite.
On va voir, ouais.
Moi, je crois aussi beaucoup à cette possibilité.
À laquelle, vous dites
Santoro, ouais. Par exemple, Santoro. Là, tout à l'heure, on va appeler Rock Voisine pour voir si vraiment Sophie le connaît bien. Ça, on le fera tout à l'heure, mais.
Bon,
est-ce que vous pouvez m'appeler à nouveau Catherine Deneuve,
bien sûr. Oui. Mais alors, il faut que vous fassiez votre tête
fameuse tête Deneuve.
Oui, alors, qu'est-ce que vous dites, Émilie, pardon?
Donc, plutôt la 2, alors je vais suivre.
Donc, il appelle le président pour vérifier que son invité, Fabrice Santoro, ne ment pas.
Voilà. Hein.
Écoutons la réponse.
Je suis obligé de présenter l'appel, monsieur.
Alors, c'est son ami, Fabrice Santoro, qui téléphone à Nico.
Non, mais là, quelles sont vos fonctions ? Pour quelles raisons vous l'appelez ?
Je suis 72e joueur mondial, monsieur.
72e joueur mondial de quoi ?
De tennis, monsieur.
De tennis ?
Oui.
Bon, ça ne me dit pas grand-chose.
Allez, passez-moi Nicolas, on a perdu assez de temps comme ça.
Oui, non, mais je crois que vous avez assez perdu de temps comme ça, vous n'aurez pas, monsieur le président.
Vous êtes censé être au standard et passer les appels. D'où vient cette incompétence ?
Mais mon incompétence vient de ce que je veux la faire. Hein.
Pas facile.
Oh là. Oui, bon.
C'était dur sur la fin.
Alors, Laurent Baffy sur Europe 1 est resté de 2007 à 2011. Vous l'avez côtoyé, Anissa ?
Laurent Baffy ?
Oui.
Non, je l'ai croisé. C'est-à-dire que quand il est parti d'Europe 1, j'arrivais.
Ah, d'accord. Mmh. Ouais. C'est-à-dire, il a pas
il a su que j'arrivais.
Parce que t'arrivais qu'il est parti.
Il n'a pas supporté.
Allez, on va jouer dans l'univers de Vérino, chère Émilie. Et on va jouer au chiffre du jour.
Europe 1.
1 180 000 centimes.
Non.
J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois.
Le chiffre du jour.
Si je vous dis 120, Émilie, à quoi ça correspond ? Est-ce que c'est le nombre de représentations qu'il a donné avec son ancien spectacle Vérino s'installe ? Est-ce que c'est le nombre de M&M's rouges qu'il exige dans sa loge avant chaque spectacle ?
Bien sûr.
Ou est-ce que c'est le nombre en millions de vues sur sa chaîne YouTube ?
Mais moi, je sais pas, je peux pas t'aider.
Quel est votre sentiment, Émilie ?
Par déduction, Émilie. Faites de la déduction.
Je dirais le 1.
Ça fait pas beaucoup de spectacles.
Ça fait 9 ans qu'il tourne. Ouais.
Hein. Non, c'est dernier.
Non, c'est les M&M's, il est tellement diva.
On l'appelle le Madonna de l'humour.
En fait, je bloque cette réponse, la troisième.
La troisième. Hein, Émilie ? On bloque, hein ?
Ouais.
Oui.
Et c'est le nombre de vidéos postées sur la chaîne YouTube.
120 millions de vidéos.
120 millions de vidéos. J'ai beaucoup travaillé.
De vues, le nombre de vues.
Le nombre de
120
vues.
120 millions de vues. Personne n'est épargné dans Focus, que ce soit les écolos, les complotistes, votre famille, vous-même, tout le monde en prend pour son grade. Vous dites qu'il y a une couche macro et une couche micro. Vous pouvez nous expliquer cette notion?
Oui, c'est marrant. C'est du technique, mais c'est comme j'écris. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on puisse avoir une vision de la société globale. C'est ce que j'essaie de traiter dans le spectacle. Et à la fois, quelque chose de très, très, très précis au niveau familial. Focus va autant dans l'énergie que je mets à regarder le monde qui nous entoure à la sensation de foyer, de famille. Moi, je vis avec la même femme depuis 24 ans, avec les mêmes enfants depuis leur âge.
Et qu'ils ont tous les trois un truc qui cloche.
Ouais. Leur père.
Il y en a un qui louche de l'œil gauche, ça.
Il y en a un qui louche, il y en a un qui a le nez qui coule, il y en a un qui est daltonien. Ouais. Et du coup, ça fait plein d'histoires très marrantes à raconter.
Et votre femme est un peu maladroite.
Et ma femme est pire que maladroite.
C'est Pierre Richard.
Elle est capable d'éternuer et de se taper la tête sur la table.
Oh, ah oui.
C'est très très drôle à voir. On a tous le petite mère, mais n'empêche que quand tu la vois faire ça, quand même.
Tu rigoles. Bah, la première fois, ça doit être impressionnant, mais après
on va jouer avec les copains. Émilie, on va jouer au bluff Europe 1 dans l'univers de Severino, qui avant de devenir humoriste a fait des études pour devenir pharmacien. Après avoir rêvé de construire, de faire des constructions en Lego, d'après ce que j'ai vu.
Oh là là, mais oui.
Donc on va jouer au bluff Europe 1 sur l'histoire de la médecine.
Tu bluffes, Martini.
Europe 1.
Il bluffe.
Le bluff.
Pas sûr.
Émilie, je vais vous poser une question. Vous allez entendre trois propositions de la part des copains qui sont autour de moi. À vous de dénicher la bonne réponse avec l'aide de Verino. On va parler d'histoire de la médecine. Aujourd'hui, on connaît bien les mécanismes de l'épilepsie, une affection neurologique qui touche 50 millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui, on soigne bien cette maladie avec des médicaments, mais ce n'était pas du tout le cas à l'Antiquité. Avec quoi traitait-on l'épilepsie dans la Rome antique? Fabien.
Alors, c'est dommage, c'est moi qui ai la bonne réponse. En fait, on réalisait deux incisions au niveau des tempes des patients pour faire couler le sang. C'était préconisé par Hippocrate et Galien, qui croyaient en la théorie des humeurs, c'est-à-dire dans le corps, en fait, on a le feu, la terre, l'air, l'eau. C'était les Grecs qui avaient lancé ça, c'était pas leurs copains, mais ils y croyaient. Et comme l'épilepsie, c'était une crise sanguine, une crise d'air, il y avait trop de sang dans la tête, il fallait le faire couler. Et fun fact, nous aussi en France, on croyait à cette théorie entre le 16e et le 18e siècle. C'est pour ça qu'on faisait des saignées.
Trop précis, bien sûr, mais
c'est faux. Pardon d'être enseigné.
On s'en servait pour mettre les lunettes aussi. Non, mais enfin, franchement. Attention, là, je vais vous raconter une vraie histoire. Qui étaient les plus forts à l'époque de la Rome antique?
C'est les vers.
Hippopotames.
Non, c'était pas les vers, encore, ils n'étaient pas là. Non, c'était les gladiateurs, évidemment. Les gladiateurs, c'était vraiment les hommes qu'on respectait, qui étaient forts, qui nous impressionnaient par leur physique, par leur santé. Voilà, ils étaient au taquet. Mmh. Sauf que parfois, il y avait des combats de gladiateurs et il y en avait un qui mourait dans l'eau. Eh bien, on se servait du sang et des organes de celui qui avait perdu le combat pour traiter l'épilepsie des malades. Parce que c'était des gens en très bonne santé et qui allaient très bien.
Tu bluffes, Martini, tu vas beaucoup trop loin.
Ça, c'est plus malin que moi.
Pas du tout.
Mais c'est mieux menti, en tout cas.
Non. Bon, c'est beaucoup plus simple que ça. Ils cherchent trop midi à 14h. La bonne réponse, c'est qu'on sacrifiait un veau blanc au dieu Mercure. Bah oui, c'était l'époque. Oui. Mercure, vous le savez, c'est le messager de Zeus. Voilà. Donc, on pensait que les épileptiques étaient des damnés. Et qu'avec une offrande de la viande la plus chère, la plus précieuse, le veau blanc à l'époque c'était un peu le bœuf de Kobe, vous voyez, eh bien on pensait que ça allait envoyer le message plus rapidement vers Zeus en le faisant passer par Mercure.
Zeus.
Oui, c'était son cousin.
C'est ça, Zeus. Bref, on sacrifiait un veau blanc. Enfin, tout le monde sacrifiait tout le monde à l'époque.
Mais il n'y avait pas de veau blanc, elle a inventé, elle a tout
inventé. Alors, pour Fabien, on réalisait deux incisions au niveau des tempes des patients. Pour Anissa, on faisait boire du sang de gladiateur aux patients. Et pour Enora, on sacrifiait un veau blanc au dieu Mercure. Que pensez-vous, Émilie?
Que pense Verino?
Moi, je pense que tu as raison. Je pense que c'est toi qui a la bonne réponse parce que t'as l'instinct.
Il faut croire
en toi.
D'accord. Donc on va dire la une.
Deux incisions au niveau des tempes de patients.
Mais ils n'étaient pas aussi doués à l'époque.
Émilie, à vous de choisir. Oui. Alors, vous dites quoi?
Moi, je dis c'est les gladiateurs.
Merci. Verino penche pour les gladiateurs.
C'est moi.
Bon, eh ben, je suis l'avis de Verino. Alors.
Attends, et si c'est pas ça, je m'excuse.
C'est la pression.
Si c'est pas ça, vous êtes invité au spectacle.
Donc je bloque votre réponse.
Je veux bien.
on faisait boire du sang de gladiateur aux patients.
Mais oui,
oui.
Yeah.
Avoir fait des petites incisions au niveau des tempes, en fait.
Et avoir bouffé du veau blanc.
Ah oui, bah, toujours plus, avec du ketchup.
L'écrivain Aulus Cornelius Celsus.
Ouais. Bien sûr, à vos souhaits.
Écrivait.
En rapport avec Mercure, du coup.
Certains se sont libérés de cette maladie, l'épilepsie, en buvant le sang chaud de la gorge tranchée d'un gladiateur.
Ah oui, bah c'était l'époque.
Avec un, avec un peu de paprika, oui. Ouais.
Ça bon, passe. Ça fait trois bonnes réponses, en tout cas,
bravo,
pour Émilie. On va jouer au mot mystère.
Moi, je suis bien le numéro 2.
Est-ce que c'est toujours la même Émilie ou
Oui, toujours la même.
C'est la même Émilie.
C'est la quatrième question.
Parce qu'à chaque fois, je dis enchanté, bonjour et tout, mais non, c'est vraiment la même personne.
Voici le mot mystère. Vous avez peut-être entendu un petit poète-poète qui va remplacer le mot qu'il faut que vous trouviez. Émilie, je vais vous donner trois citations. Et c'est le même mot dans chaque citation. On commence avec une citation de Barjavel. Les sont des sages.
Émilie,
avez-vous une proposition?
Barjavel. C'est la radio.
À quoi pensez-vous?
Les sont des sages.
Ouais.
Attends, c'est un rapport avec Vérino alors.
Les enfants de Vérino.
Ouais.
Ah. Qu'est-ce que vous dites, chère
Anissa? Les enfants sont des sages.
Ok, pourquoi pas. Deuxième citation de Victor Hugo. Dans les grands jours, les enfants sont des hommes.
Ah, là, vous n'avez pas,
bah,
mis le poète-poète.
C'est bien parce que vous n'avez pas mis le poète-poète.
Ouais. Ouais. Non, mais j'essaie.
Ah, elle conteste. Ah.
J'essaie.
Elle
avec
regarde
la proposition.
Si le carré avec un peu d'envol, elle s'est plantée et elle a donné la réponse.
Voilà.
Donc.
Non, mais attendez, vous avez affaire à Micheline Deneuve, là. C'est pas c'est n'importe qui, quoi.
J'essaie avec la proposition d'Anissa, qui m'a proposé les enfants. Voilà. Alors, si vous voulez, je refais avec le poète-poète. Dans les grands jours, les.
Voilà.
Sont des hommes. C'est dangereux, c'est avec les enfants.
C'est ça, donc il nous fallait les trois, les
oui,
trois phrases.
Exact.
Et c'est
le même
mot,
exactement.
Voilà. C'est pour ça qu'on buguait.
Donc ça marche pas mal.
Ça marche pas mal. Pour l'instant, ça marche.
Vous avez une autre idée, Émilie?
Non, pas pour
les knackis, mais ça marche moins.
Oui, j'allais dire couilles, mais je crois pas.
Troisième citation d'Enrico Macias.
Ah si, c'est couilles.
De tout pays et de toute couleur, vous avez dans le cœur notre bonheur.
C'était pas tout à fait le bon accent.
Voilà, non.
Mais surtout, il n'y a pas de moi.
Dans le cœur. Non, c'est pareil, ça a une
c'était poète,
les
de tout pays.
Bon, je crois qu'elle a trouvé, Émilie.
Ouais, je maintiens les enfants.
Vous suivez Nora ou les enfants,
on
alors?
On bloque la réponse. Et c'est la quatrième bonne réponse.
Bravo!
Oh là là! C'est meilleur que la Émilie de tout à l'heure.
C'est une version qui date
d'enregistrement
1962.
Ah ouais. Puis ils ont enregistré sur la place du marché. Hein.
Quatre bonnes réponses pour Émilie. Bravo,
bravo
vous
Émilie.
Allez tenter le jackpot, Émilie. C'est l'heure de vérité. Il y a 800 euros à gagner. 10 bonnes réponses à me donner en moins d'une minute. C'est vraiment un exercice de rapidité. Vous êtes prête?
Allez.
On est avec vous, Émilie.
Vous passez, hein, si vous l'avez. Ne
perdez pas de temps, hein. Bonne chance.
Attends, il n'y a que 10 questions et il n'y a que 10 réponses.
Et une minute.
Et une minute. Bah, et donc
si
ça tourne.
Non, non,
ça,
si elle passe, il y a d'autres questions.
Si elle passe, il y a d'autres questions.
Si elle passe, il y a d'autres questions, ok. Et nous, on ne peut pas aider.
Non.
Ok.
C'est
merci.
Elle et sa chance.
C'est mieux que je sache parce que, ouais. Bon courage,
Émilie. Attention, Émilie. Top chrono. Pi, c'est plus ou moins que 3.
2.
Dans Stone et Chardin, qui est la femme?
Passe.
Comment s'appelle la seule femme dans le village des Schtroumpfs?
Schtroumpfette.
Le mari de Laetitia Casta, c'est Pio Marmaille ou Louis Garrel?
Louis Garrel.
Qui a dit savoir aimer sans rien attendre en retour, Florent Pagny ou Victor Hugo?
Florent Pagny.
Avec quelle actrice Gainsbourg a chanté en premier Je t'aime, moi non plus?
Jeanne Birkin.
Qui a chanté en premier J'aime les filles, Jacques ou Thomas Dutronc?
Jacques.
Pour quel duo les histoires d'amour finissent mal?
Rita Mitsouko.
Qui est l'actuel ministre de l'économie et des finances? L'actrice Naomi Campbell est anglaise ou américaine?
Elle est pas actrice, elle Naomi Campbell. Elle est mannequin.
Voilà. Ah bah on est obligé de mettre le point.
Elle a bien dû tourner.
Elle a dû jouer dans une pub, ouais.
Oh la jalousie. Jalouse.
Moi, elle a joué à une petite pubette.
Alors ça fait quoi ça, 5 ou 6 réponses?
Et c'est Jocelyne qui te dit ça, Émilie.
Elle a franchi la moyenne, Émilie, déjà. Mais elle a paniqué au début, Émilie.
Il y a eu de la panique.
Parce que plus ou moins de 3 répondent 2 pour Pi, c'est un signe de panique. Ça.
Alors, 5 bonnes réponses.
J'ai envie de couper la bande et de vous l'envoyer pour que ce soit la sonnerie de votre portable.
Dans Stone et Chardenne, qui est la femme?
Bah, on ne sait plus. Hein,
bah, si, Stone.
Si, c'est Stone.
C'était Eric Chardenne, le. Voilà.
Franchement, j'aurais pas su répondre. Ah, ouais, oh, c'est trop loin pour moi.
Ouais, c'est loin.
Avec quelle actrice Gainsbourg a chanté en premier? Je t'aime, moi non
Campbell.
Plus. Brigitte Bardot.
Brigitte, bien sûr.
Qui est l'actuelle ministre de l'économie et des finances, Émilie?
Naomi Campbell.
Bruno Le Maire.
Bruno Le Maire, ouais.
Il faut répondre ça Naomi Campbell.
Naomi Campbell, elle est anglaise.
Elle est anglaise.
Et elle est anglaise? Ah, c'est pas vrai. Ah,
elle est anglaise.
Et si, ma bonne dame,
je dis américaine. Bon, Émilie, on vous embrasse.
Ouais, moi aussi.
Sophie Davant sur Europe 1.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Sophie, bonjour les copains.
Bonjour, alors, bonjour Nathalie.
Un bonjour particulier pour monsieur Christian Morin, que j'ai connu sur Europe 1 de l'époque de Hit Parade. Voilà, donc c'est pas d'hier. Et puis voilà, après sur TF1. Et puis un bonjour particulier aussi à Jean-Luc, que je suis depuis longtemps, que j'ai été voir en spectacle.
Ah, oh, merci. Oh, merci Nathalie.
Et que j'aurais bien aimé revoir en spectacle sur Paris, mais j'ai pas vu.
Pour l'instant, il n'y a pas de date prévue en région parisienne, mais dès que ça sera le cas, on vous tient au courant.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nathalie?
Super gentil. Alors moi, je m'occupe de prévention des risques professionnels. Donc je vérifie que vous êtes bien assis sur votre chaise sans vous faire mal au dos, que les mouvements que vous faites sont bien ergonomiques, et je forme aussi les gens au secourisme.
D'accord. Génial. Bon, on va jouer avec vous dans l'univers de Christian Morin et on va jouer au chiffre du jour.
Europe 1.
1 180 000 centimes. Non, je vais finir dans les chiffres, c'est pas la première fois.
Le chiffre du jour.
Vous l'avez reconnu?
Comment Christian, s'appelait-il avec sa casquette?
Le syndicaliste.
Henri Krasuki, tout à fait.
Alors, je vous donne le chiffre 15. À quoi correspond-il, Nathalie? Est-ce que c'est l'âge que Christian avait quand il a commencé à travailler? Est-ce que c'est le nombre d'années qu'il a passé sur Europe 1? Ou est-ce que c'est le nombre de clarinettes qu'il possède?
Car
il sait tout faire, cet homme-là. Il sait dessiner, il sait
et
jouer de la clarinette.
Le nombre de bouches qu'il a pour jouer de la clarinette. Oui.
Vous dites quoi, Nathalie?
Alors, je dirais peut-être les années à Europe 1.
Je bloque votre réponse.
Je ne sais pas. Non, je vais quand même demander aux copains ce qu'ils en pensent.
Écoutez, vu la promptitude Sophie à vouloir bloquer votre réponse, je pense que vous êtes sur la bonne voie.
Bon, je la bloque, votre réponse, Nathalie.
Oui.
Et de 1972 à 1987, ça fait 15 ans.
Ouais.
Hein. Bravo, Nathalie.
Bon, on va jouer au bluff Europe 1, en tout cas, avec Nathalie.
Tu bluffes, Martini.
Europe 1.
Tu bluffes.
Le bluff.
Pas sûr.
Nous allons parler d'art, Nathalie. Je vais vous poser une question. Les copains vont me faire chacun une proposition de réponse. À vous, aidé de Christian Morin, de trouver la bonne réponse. L'année 2024 marque les 150 ans d'un mouvement artistique majeur, l'impressionnisme, dont faisaient partie les peintres Cézanne, Degas ou Monet. La toute première exposition impressionniste a eu lieu le 15 avril 1874. Vous avez un peintre préféré, un artiste préféré, Christian?
C'est embarrassant parce que Monet, bien sûr, mais dans les impressionnistes, cette découverte de l'impression, on les considérait comme des fous. Ils étaient même déconsidérés à l'époque. Ouais. Et je vous recommande d'ailleurs un article formidable, vous citiez Franck Ferrand tout à l'heure, dans Historia du mois d'avril, sur l'impressionnisme. Mais autrement, Monet, oui.
Le musée d'Orsay à Paris, qui abrite la plus grande collection d'œuvres impressionnistes du monde, s'apprête à inaugurer le 26 avril prochain une exposition très spéciale avec un casque de réalité virtuelle. Mais en quoi va consister cette exposition
Joe, votre proposition.
Alors, c'est très simple. En fait, elle va permettre, via ce casque de réalité virtuelle, de revivre la toute première exposition dont vous parliez, du 15 avril 1874, comme si on y était. Comme si on y était. Donc, l'exposition, ça va s'intituler « Un soir avec les impressionnistes ». Et ça vous propose de vivre ce vernissage historique qui s'était déroulé dans l'atelier du photographe Nadar, du 15 avril au 15 mai 1874, et qui proposait d'admirer une centaine de toiles impressionnistes. Et avec ce casque, eh ben vous allez pouvoir vous replonger dans cette époque-là. En revanche, il faut y aller habillé comme à l'époque. C'est ça, vous êtes obligé de venir en costume, sinon vous ne rentrez pas.
J'ai la tenue.
Et Nora. Alors, il est charmant, Joe, hein, mais il est très c'est un mythomane. Alors, la bonne réponse, c'est la mienne. Alors, grâce à ce casque virtuel, effectivement, là, tu as raison, eh bien, vous allez pouvoir créer vous-même une œuvre avec vos petites mains.
C'est faux, mais ce serait super.
Mais non, mais c'est vrai, à la manière de... Donc, vous allez avoir votre petit casque, vous allez faire comme si vous appuyiez sur un petit bouton, ça sera à la manière de Monet, à la manière du douanier Rousseau, à la manière de Sésame, et vous allez pouvoir, comme ça, Sésame. Faire les... Sésame.
Sésame, bien sûr.
J'ai dit Sésame.
Ouais, mais ça marche.
Ouvre-toi.
Elle est un petit peu blonde aussi, quand même.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Mais voilà, donc ça, c'est une super idée. C'est très ludique. Et ça ne m'étonne pas du musée d'Orsay, qui sont extrêmement malins.
Et Jean-Luc ?
Non, c'est encore plus génial que ça, parce que c'est vrai que le musée d'Orsay veut essayer de conquérir un nouveau public, plus jeune aussi. Et donc, c'est grâce à... Non, mais c'est vrai.
Je sens venir un truc sympa.
Mais pas du tout, pas du tout. Avec ce casque de réalité virtuelle, ils vont organiser un escape game. Non, mais laissez-moi. Je vous ai laissé parler.
Laissez-moi terminer.
C'était complètement incohérent ce que vous avez dit. J'ai respecté. Un escape game. Non, mais je vous explique. Il y aura des énigmes à résoudre et vous pourrez rentrer dans les tableaux des impressionnistes.
Voilà, bien sûr. Et le père Fouras sera devant un bon vieux Toulouse-Lautrec.
Vous rentrez dans les tableaux des impressionnistes. Il y aura une énigme à chaque fois.
Alors, pour Joe. Elle permettra de revivre la toute première exposition impressionniste de 1874. Pour Enora, elle permettra de créer soi-même une œuvre virtuelle avec ses mains. Et pour Jean-Luc, elle permettra de participer à un escape game. Que pensez-vous, Nathalie ?
Ah, j'aurais tendance à croire Enora.
Je vous comprends.
C'est un scandale.
Très sincèrement,
Joe,
je connais Nora depuis quelques années. Tous ceux qui l'ont cru l'ont regretté.
Elle a cité Sésame parmi les impressionnistes, je vous rassure. Donc,
Oui. Et Shazam.
Et vous, voilà. Christian, vous pensez à quoi, vous ?
Moi, je pense à prendre la main de Nathalie pour venir à son secours.
Voilà, elle en a besoin.
Je vois cette équipe de copains autour de vous, Sophie.
Copains avec des guillemets.
Je ne peux rien vous dire, Nathalie.
Vous êtes affligée.
Je suis. Non. J'en connaissais certains, donc ouais. Ça ne m'étonne pas. Mais ils se sont améliorés sur un versant particulier.
Alors, vous pensez à quelle réponse ?
Moi, je pensais à la première proposition. Oui, c'est ça ?
Revivre 1874.
Oui.
Oui, mais avec les vêtements, venir avec les vêtements d'époque.
Mais non, mais ça c'était une vanne. J'avais glissé une petite blague dans mon explication, je vous rassure.
Alors, d'accord, Joe. Alors, dans ce cas-là, effectivement, je pense que revivre l'exposition de 1874, c'est une super expérience.
Ok. Eh bien, c'était la bonne réponse. Bravo.
Je pourrais quand même y aller en chemise à jabot aussi. Je ne vais pas me refuser l'entrée.
Mais n'empêche, ça va être génial. Hein.
Génial. Ça s'intitule Un soir avec les impressionnistes. On vous propose de vivre ce vernissage historique qui s'est déroulé dans l'atelier du photographe Nadar, qui proposait d'admirer 165 toiles impressionniste. Vous l'avez dit, pourquoi ils s'appellent les impressionnistes ?
Par cette impression, c'est-à-dire que vous parlez de Nadar, il y a une peinture magnifique qu'il faut absolument voir, qui sera peut-être à Orsay d'ailleurs, d'un des boulevards, le boulevard du crime, où il y avait les enfants du paradis, où s'est tourné les enfants du paradis, où il y a une peinture de Monet qui est faite depuis l'atelier de Nadar. C'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez, quand on va voir le tableau, les nymphéas par exemple, clignez des yeux, quand vous êtes de près, vous ne voyez rien. Et avec le recul, cette impression est extraordinaire.
Nathalie a déjà deux bonnes réponses.
Sophie et les copains.
Sophie Davant sur Europe 1.
On va jouer au mot mystère. Vous avez entendu ce petit son mélodieux, petit pouet-pouet.
Bah, depuis que vous avez quitté Europe 1, vous avez vu, on a fait des progrès.
Ah ben ça me rappelle surtout Maryse avec Coluche.
C'est un hommage aussi à Pierre Belmar. Alors, ce petit pouet-pouet remplace le mot qu'il faut que vous trouviez, Nathalie. Je vais vous donner trois citations. C'est le même mot dans chaque citation. Un mot qui a un rapport avec notre ami Christian. Voici la première citation de Freud. L'opposé du n'est pas le sérieux, mais la réalité. L'opposé du n'est pas le sérieux, mais la réalité. Une idée, Nathalie ?
Non, pour l'instant, non. L'opposé du...
Un mot qui vous vient...
L'opposé du sérieux...
Non, l'opposé non, non. du... n'est pas le sérieux, mais la réalité.
Ouais.
Les copains ont une idée ?
Je sais pas.
Un mot ?
Le sourire.
Rire, l'opposé du rire n'est pas le sérieux, mais la réalité. Ça pourrait
ça
aller.
Pourrait,
voici la deuxième. Ouais. Honoré de Balzac. La conversation est un... où il ne faut pas mettre un louis contre un écu. Wow. La conversation est un... où il ne faut pas mettre un louis contre un écu.
On dirait une contrepétrie.
Ouais. C'est vrai.
C'est pas facile.
Jean-Luc.
Un pari.
Un pari.
La conversation est un pari où il ne faut pas mettre... c'est pas bête, c'est dans cette idée.
Christian, vous avez trouvé
Un mensonge.
Non, la conversation est un mensonge où il ne faut pas mettre un louis contre un écu.
Alors là, c'est
pensez à la carrière de Christian Morin. Je vous donne.
Est un animateur de télé.
Voici la troisième citation. Claude François. C'est vraiment un drôle de la vie. Drôle de dangereux.
Ben, le jeu, ouais.
Vous avez dit Nathalie.
Le jeu.
Ben oui.
L'opposé du jeu n'est pas
le jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité.
La conversation est un jeu où il ne faut pas mettre un louis contre un écu. C'est vraiment un drôle de jeu, la vie. Drôle de jeu dangereux. Bravo Nathalie.
Oui.
Et Nathalie, donc, nous n'avons été d'aucune utilité. Absolument pas.
Alors vraiment,
s'il l'avait dit.
Non mais Nathalie l'a dit avant moi. Nathalie l'a dit avant moi.
Pourquoi ? Parce qu'il a animé plein de jeux, notre ami Christian Morin.
Pas beaucoup. Il y a eu des jeux plus ou moins intéressants, mais il y a surtout celui qui marque au fer rouge quand on se trouve. Il faut dire quand même que là, on était face à 12-13 millions de personnes à l'époque.
La fortune.
Trois bonnes réponses pour Nathalie. On va parler non pas de la clarinette, l'instrument de prédilection de Christian Morin, mais du saxophone. Vous avez un saxophoniste préféré ? John Coltrane, Parker, Stan Getz ?
Ah, Charlie Parker, j'aime beaucoup. Johnny Hodges ?
Ouais.
Gonzalez, Paul Gonzalez, saxophoniste de Duke Ellington. Ça, c'est Miles. Hein.
Ouais. Les plus grands saxophonistes sont américains, mais est-ce que vous saviez que le saxophone a été breveté à Paris le 21 mars 1846, il y a donc 178 ans, car le saxophone n'est pas une invention américaine. Mais de quel pays vient le saxophone ? Je pose la question à Nathalie. Vient-il de la Suisse, de la France ou de la Belgique, Nathalie ?
Alors, j'aurais tendance à dire peut-être la Belgique, du nom de son inventeur, peut-être.
Qui s'appelait ?
Monsieur Saxe, non, c'est pas ça ?
Mais
je sais pas, je vais demander au,
à Google.
Peut-être à Christian, à monsieur Christian Morin, peut-être que.
Bon, qu'est-ce que vous pensez, Christian ?
Qu'est-ce que je fais ? Mais bravo, Nathalie.
Bravo, c'est ça. Quatrième bonne réponse.
Elle se promène, Nathalie.
Vous êtes musicienne, Nathalie ?
Non, pas trop, mais bon,
je suis juste pas débile.
Culture générale,
bonne culture générale.
Je peux vous indiquer la position des doigts.
Adolphe Saxe, en 1840, qui lui donne le nom de saxophone. Il le présente, voilà. Le conservatoire va même proposer à Adolphe Saxe d'enseigner, mais il dit non. Il faudra quelques dizaines d'années avant que son invention, le saxophone, devienne un instrument reconnu.
Alors Bizet l'a utilisé pour la première fois au tout début dans le prélude de l'Arlésienne. Il y a un très très beau solo de saxophone alto qui est magnifique, que je vous conseille d'écouter le matin, au moment du petit déjeuner.
Alors si je vous demande votre œuvre classique préférée, vous dites quoi ?
C'est la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak.
Ah ouais ?
Ah, j'adore ça.
Et votre œuvre de jazz préférée ? Votre disque de jazz préféré?
Ça, c'est difficile. Je vais répondre comme un de mes invités dans une émission de jazz il y a quelques années. Je crois que c'est Nicole Croisi qui avait répondu ça. J'emporte une compilation. Comme ça, j'aurai tout. Ouais. Non, mais je vais plutôt vers la musique du swing de l'époque de Broadway, Duke Ellington, Basie, Benny
Goodman. Moi, j'aurais dit Basie, Duke Ellington. Il y a un disque noir et blanc, là, qui est génial.
Mesdames et messieurs, Sophie Davant et votre serviteur, nous partons en vacances ensemble avec ce même disque de Duke et de Count Basie.
Voilà. Et là, il y a un moment de suspense et nous soutenons Nathalie qui va tenter le jackpot. Attention Nathalie, exercice de rapidité, exercice de culture générale. Vous avez une minute pour trouver 10 bonnes réponses. Des conseils à lui donner les amis?
Passez si vous ne savez pas. Absolument. Tracez.
Ne perdez pas de temps.
Et soyez détendus, mais performants en même temps.
Il est odieux.
Et faites-le à cloche-pied. Voilà, et ne réfléchissez pas trop. Voilà.
Il est odieux.
Attention, Nathalie.
Bonne chance.
Top chrono. Quel verbe signifie qu'on remet toujours à plus tard ce qu'on pourrait faire tout de suite?
Procrastiner.
Vrai ou faux, la Bulgarie donne sur la mer Noire?
Faux.
L'île de la Tentation, c'est sur W9 ou sur M6?
W9.
Quelle Justine a eu un Oscar pour Anatomie d'une chute?
Triet, Justine Triet.
Farid est sportif ou athlète? Farid.
Sportif.
Le juste prix, c'est sur TF1 ou M6?
M6.
Vrai ou faux, Marie Drucker n'a rien à voir avec Michel Drucker?
Faux.
Sylvain Augier avait présenté Faux pas rire ou Faux pas rêver?
Faut pas rêver.
Le prochain album de Beyoncé, c'est Cowboy Carter ou Call Girl Trump?
Le premier.
Combien il y a de haine à Dupont de Ligonnès?
3.
Qui a dit je préfère voler en Airbus qu'en Boeing? Ma famille tient à moi. Bruno Le Maire ou Gabriel Attal?
Bruno Le Maire.
Ça fait plus ou moins de 10 ans que Poutine.
Justine, il en manquait une.
C'est abusé.
9 bonnes réponses.
Ah là là.
Moi, je suis pas d'accord.
Ouais.
Non.
Il y avait une question, c'est athlète ou sportif, c'est ça?
Ouais.
Il y en a une, on peut presque la compter. Hein.
Ou athlète.
C'est la même chose. C'est humoriste ou sportif. Je pense qu'il y a une erreur et qu'il y a le 10e point, en fait.
C'est une erreur. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Là, c'est un vrai cas de conscience.
Posez-moi une autre question.
Ah, regardez, elle relève le challenge.
Alors, attendez. J'ai juste une question. Attention.
Oui.
Ça fait plus ou moins de 10 ans que Poutine est président de la Russie.
Ça fait plus.
Bravo, Nathalie.
Bravo.
Trop bien.
10 bonnes réponses. Bravo, Nathalie.
Justice à
vous pour cette erreur. 800 euros pour vous.
Formidable. Merci.
De quoi gâter peut-être vos petits-enfants. Ils s'appellent comment, vos petits-enfants?
Alors, Jules, Emma et Willow.
Voilà, et tout le monde, et si vous voulez faire un coucou à vos deux enfants.
Ah oui, ben j'embrasse tout le monde. Un coucou à ma maman qui va m'écouter, et à toute ma famille. Et bien sûr, j'embrasse tout le monde. Et je vous embrasse, vous, parce que vraiment, vous êtes super.
Merci, Nathalie. Comment elle s'appelle, votre maman?
Maman, elle s'appelle Françoise.
Et ben bisous, voilà, Françoise. On fait des bisous à Françoise.
Et c'est grâce à elle que j'écoute Europe 1 depuis plus de 50 ans.
Ah, c'est beau ça.
Comme Poutine, du coup, la même année.
Elle écoutait déjà Europe 1.
Ah oui, Europe numéro 1 à l'époque, oui, tout à fait.
Okay. Génial.
Et ben, on embrasse toute votre famille, Nathalie. On vous félicite.
Merci beaucoup, Sophie. Merci, les copains.
Bisous, merci. Nathalie. Bravo.
Bonjour, voilà. Stéphane.
Bonjour Enora, bonjour Sophie, pardon.
Oui, il a sa favorite. Il peut aussi dire bonjour à Enora. Ouais.
Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Enora également.
Où habitez-vous Stéphane?
À Cannes.
Ah, oui. Où vous faites quoi?
Je suis prothésiste dentaire.
Oh, j'adore. Oui. comment nous avez-vous découvert?
Il y a 5 mois, quand j'ai trouvé un nouveau travail, mon patron n'écoute que Europe 1 toute la journée.
Ça, c'est un bon patron, ça. Il s'appelle comment?
Stéphane aussi.
Bah, Stéphane, si vous nous écoutez, on vous embrasse.
Bien sûr.
On va commencer par l'actualité, Stéphane. Une question actu. C'est signé. Europe 1 est officiellement partenaire de l'événement sportif Roland-Garros jusqu'en 2026. On en est forcément heureux et fiers. Alors, une question. Roland-Garros, pour fêter ça. Oula. Le premier tournoi de Roland-Garros. Vous avez dit oula, Stéphane?
Non, c'est moi qui ai dit oula.
C'est vrai que Stéphane a une petite voix fluette.
Non, parce que vous êtes sportif. Je vois que vous pratiquez plein de sports.
Oui, le tennis notamment.
Voici ma question. Le premier tournoi de Roland-Garros, c'était en 1891. Que se passe-t-il en 1925? Est-ce que le tournoi s'ouvre aux joueurs étrangers? Est-ce qu'un deuxième tournoi est créé et il est féminin? Est-ce que les seules balles autorisées sont les balles jaunes? Oh. À votre avis?
Comme ça, je serais partant pour les balles jaunes.
Ah ouais,
mais...
ah
ouais. Mais ouais, c'est votre premier instinct, mais rien de sûr.
Moi, j'aurais dit les femmes, moi. J'aurais dit que ça s'ouvrait aux femmes.
Après, voilà. Moi aussi j'aurais été plutôt sur le tournoi féminin.
Alors, s'ils avaient ouvert ça aux femmes, est-ce qu'ils n'auraient pas fait dans le même tournoi, c'est-à-dire le tournoi devient mixte? Parce que là, on crée un deuxième tournoi, carrément.
Oui, mais ça ne m'étonne pas en 1925, ouais, tu vois, vrai, une espèce de petit tournoi parallèle. Ouais, c'est vrai. Bon. Alors, Stéphane, vous nous suivriez?
Quelle réponse bloquez-vous?
Ouais, ça me met le doute, oui, parce que les femmes, c'est pas...
C'est pas top.
c'est pas une mauvaise idée, justement. Ouais, c'est intéressant.
J'espère qu'on vous a dû pas en
erreur. Oui, parce que c'est, c'est le premier jeu
la
de Stéphane.
La pression, ouais, je sais. Oh là là.
On n'a pas envie de vous quitter, Stéphane.
Alors, j'ai un doute, là. Je répète les propositions. Le tournoi s'ouvre aux joueurs étrangers. Un deuxième tournoi est créé et il est féminin. Ouais. Les seules balles autorisées sont des balles jaunes.
En tout cas, la plus grosse erreur.
1925, alors que le premier tournoi a lieu en 1891.
Si je peux me permettre, dans ce tournoi, la plus grosse erreur qui a été commise de toute l'histoire, c'est d'ouvrir aux joueurs étrangers. Parce que depuis, on ne gagne plus.
Non mais tu sais quoi, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être ça, les gars.
C'est peut-être ça.
C'est peut-être ça.
Oui, ça se peut, cela dit.
C'est peut-être à ce moment-là que c'est devenu un tournoi international.
Tu vois, ça m'étonnerait moins. Et là, surtout, moi, ce qui me... Là, comme quand Sophie l'a reformulé, c'est qu'ils ouvrent le tournoi aux étrangers. Mais c'est-à-dire qu'ils ne créent pas un deuxième tournoi. Ça devient plus inclusif, tu vois.
Et c'est là où tout a commencé, tout notre malheur.
Le malheur a commencé.
Yannick, reviens.
Stéphane, nous, on valide la une. Ouais. C'est ouvert aux joueurs étrangers.
Alors, est-ce que je bloque cette réponse, Stéphane?
Je vous jure, c'est ça.
Alors que je vois la régie envahie d'une bande de jeunes enfants.
C'est les nouveaux. Tiens,
venez me rejoindre, les enfants. Venez là dans le studio.
Venez, on va faire une chorale. Venez. On va faire une chorale. Stéphane, c'est la une, c'est sûr.
Ouais, je pense.
J'ai bien envie de vous faire confiance. Ouais.
Allez. Fais confiance, croisant.
Ouais, allez, on va dire des joueurs étrangers.
Donc, je bloque votre réponse. Et c'est la bonne réponse. Non français sont autorisés. De fait, le tournoi de Roland-Garros devient les internationaux de France. Les joueurs étrangers peuvent participer, sauf les Allemands. Et c'est quand même un Français qui gagne cette année-là, un certain René Lacoste. Ouh là 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 là. Alors, d'où ils viennent, ces enfants? Qui est le porte-parole de ce groupe?
C'est qui le délégué qui s'est installé au micro?
Qui est-ce qui s'exprime très bien et qui veut passer en direct à la radio?
Il y a quelqu'un devant le micro.
J'ai tous envie de les adopter, ils sont
qui
trop beaux.
Qui veut devenir animateur de radio qui parmi vous?
Ou animatrice?
Si vous êtes hésitant, dites-vous que
pas peur.
Si nous pouvons, vous pouvez largement.
Ah oui.
Vous, toi,
qui vient?
Oui.
Mais venez,
oui.
Venez la jeune.
Voilà, regarde.
Vous allez entendre. Bien. Oh, il
un
est
futur,
beau comme
un
tout.
Un futur Michael Jackson.
Ben voilà.
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Yacine.
Yacine.
Yacine. Et tu viens d'où, Yacine?
De Vélizy.
De Vélizy. Vous venez tous de la même classe?
Oui.
Approche-toi du micro.
Alors, Yacine, raconte-nous. Donc, le collège comment?
Saint-Exupéry à Vélizy.
D'accord.
En fait, on est venu faire une visite d'Europe 1, enfin, comment ça marche.
Et alors, ça vous plaît?
Ouais, ça nous plaît.
Bon. Ah, qu'est-ce cool. que vous avez vu de. Le truc le plus étonnant que vous ayez vu à depuis que vous êtes là?
En fait, nous, à la base, on est là pour voir Christophe Ondelat.
Ah, d'accord. Ah, okay. Ouais. Ouais. Nous on sent coup. Le paquet de campagne.
Nous, on est de la garniture.
Ouais. On est vachement sympa aussi. Allez, vous au savez. Revoir et merci beaucoup, les enfants. Merci
et bravo, Yacine.
Salut la 4e A du lycée Saint-Exupéry.
Bon, le bureau de Christophe, c'est de l'autre côté du couloir. Là. C'est juste en face.
Il est très sympa, vous allez voir.
Vous pouvez prendre des photos, bien entendu.
Voilà, vous pouvez prendre des photos, faites ce que vous voulez. Ici, c'est l'auberge espagnole. On accueille tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus dans ce studio.
Sophie et les copains.
Sophie Davant sur Europe 1.
Voici, Stéphane, la question qui ou quoi?
Qui? Europe 1. Le qui ou quoi?
Et les personnes que nous avons interviewées dans la rue vont vous donner des indices.
Des vrais gens de la rue.
Il faut vous donner des indices pour deviner de qui ou de quoi on parle. Écoutez bien.
Je pense qu'on devrait en lire au quotidien, ça nous ferait beaucoup de bien.
Moi, ça me rappelle trop l'école. Je fais un blocage dessus. J'en écris de temps en temps quand je me sens inspirée.
C'est un trou de verdure où chante une rivière.
Pour moi, c'est pas seulement un genre littéraire, c'est quelque chose qui se contemple au quotidien.
Oh bah, je l'ai. De quoi parle-t-on, Stéphane?
Oh, il va trouver en deux secondes.
De poésie.
Bah, oui. Bravo, ouais, Stéphane. Ouais. Voilà.
Yes.
Parce que
c'est la
poésie.
Journée mondiale. C'est la journée mondiale de la poésie, et c'est depuis 1999 sur une décision de l'UNESCO. Alors, l'objectif de cette journée, c'est d'encourager la lecture, la rédaction, la publication et l'enseignement de la poésie dans le monde entier. Et
d'ailleurs,
ça tombe
Sophie
bien,
va nous faire un petit poème.
Car vous savez que cette semaine, c'est également la semaine de la langue française et de la francophonie. Et je vais d'ailleurs vous laisser sur cette citation d'Aimé Césaire.
Et elle va prendre une voix très 36-15, Ula.
La poésie est cette démarche qui, par le mot, l'image, le mythe, l'amour et l'humour, m'installe au cœur vivant de moi-même et du monde.
J'ai envie qu'on arrête là-dessus.
Ça fait deux bonnes réponses. Voici une question musique. Shakira,
hein, vous la vraie, êtes, en chair et en os dans ce studio.
Joe, vous êtes présidente de son fan club?
Absolument pas, mais j'aime beaucoup, cela dit.
Shakira, qui était au collège Saint-Exupéry.
Alors, nous sommes en 2011, et alors qu'elle se produit dans une grande salle parisienne, la superstar de la musique latine reprend un classique de la chanson française que vous connaissez forcément.
Elle a dû faire toutes les guerres. Ah oui. Pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres.
Elle garde son petit vibrato.
Je suis désolée, je trouve ça atroce.
Non, je suis désolée. C'est touchant.
Alors, je ne peux pas mentir aux auditeurs de repas, je trouve ça immonde.
Elle massacre donc la magnifique ballade que Francis Cabrel sort en 1970.
On est d'accord, Sophie. Non,
mais comment, plus de 30 ans plus tard, Shakira a eu l'idée de reprendre cette chanson pour son public français? Comment et pourquoi l'a-t-elle entendue sur Europe 1 alors qu'elle était interviewée dans nos murs par Nikos Aliagas? Est-ce que Cabrel avait sorti lui-même une version en espagnol qui avait cartonné en Colombie? Ou est-ce que c'est l'un de ses amoureux, un Français, qui lui avait joué à la guitare pour la séduire?
Ah, son ex qui s'appelait comment? Piquet, je sais pas quoi, c'est pas ça?
Piquet, Gérard Piquet.
Non, c'est ça.
Bah, elle l'appelle Voldemort. Mais vraiment.
C'est un footballeur, non?
Gérard Piquet, c'était défenseur de Barcelone.
Voilà. Ah, il a été méchant avec elle, c'est ça?
Ah, bah il l'a trompé, quoi.
Oui, voilà, oh, classique.
Il a trompé Shakira, trois fois rien.
Franchement. Alors, bon, moi j'irais bien sur.
Est-ce qu'elle l'a entendu sur Europe 1 alors qu'elle était interviewée par Nikos Aliagas? Est-ce que Cabrel avait lui-même sorti une version en espagnol qui avait cartonné en Colombie? Ou est-ce que c'est l'un de ses amoureux, un Français, qui lui avait joué à la guitare pour la séduire?
Alors, Stéphane.
C'est quoi, Stéphane?
Stéphane.
Ah, la troisième est très jolie.
Oui, mais oui, je vois pas le petit Piquet gratté.
Non, mais on ne sait pas si c'est Piquet. Ça peut être un autre.
Ah, ça peut être un autre ex. Oh. Alors, à votre avis?
Je crois que Cabrel l'avait sorti en espagnol, il me semble.
Ouais.
Je suis pas sûr.
Qu'est-ce que vous en pensez, les copains?
Écoutez-moi, il me semble que l'histoire, c'est que ça a été un gros succès en Colombie et que c'est un souvenir d'enfance de Shakira qui s'en souvenait parce que ça avait été un tube là-bas.
Ouais. Moi, je suis toujours Jean-Luc. Hein. J'ai assez peu de personnalité, globalement. non, mais je pense que c'est ça aussi.
Qu'est-ce
Stéphane.
Que vous dites, Stéphane? Est-ce qu'on bloque?
Oh oui, on va bloquer ça, alors. Hein.
D'accord. Oui. Il est bon, Stéphane, hein, sous ses airs un peu timides. Il est bon.
Hein.
Cabrel l'aurait lui-même sorti en espagnol, une version qui aurait cartonné en Colombie. Est-ce que vous validez, cher Joe?
Mais tout à fait, c'est la bonne réponse.
Ouais, c'est la troisième pour Bravo. Stéphane.
Ben ouais, effectivement, Shakira, quand elle était toute petite, elle est née en 77, elle entendait à la radio cette version de Francis Cabrel qui a été traduite en espagnol par Luis Gomez Escolar, une version que Francis Cabrel a sortie en 45 tours. Écoutez ce que ça donne.
Yo que hasta hier solo fui un holgazán y hoy
C'est très très beau. Et donc voilà, vous pouvez trouver, si vous aimez, il y a tout un album, une compilation de chansons en espagnol de Francis Cabrel.
Amigos, la route show et tout.
Ah là là, ça parle espagnol et tout.
Les
Bon, l'album de Cabrel en espagnol s'appelle Algo Más de Amor. Voilà, si vous voulez aller y jeter une oreille, c'est très très beau. Et il a dit, alors il n'est pas d'accord avec Enora, il dit que la version de Shakira est très belle.
Parce qu'il est sympa, Francis.
Il est sympa,
Excusez-moi, il n'y a pas que Enora.
Il y a quand même Sophie qui dit aussi qu'elle avait massacré.
Moi, je suis amoureuse de Francis Cabrel.
Elle adore ça.
Personne ne peut reprendre Francis Cabrel. Est-ce qu'on peut réécouter la version de Shakira?
Oui, elle aime bien Sophie.
Juste pour voir.
Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui.
C'est pas mal quand même,
exagère un peu. C'est en live, hein, c'est en concert. Hein. C'est pas.
C'est une magnifique surprise qu'elle avait fait pour son public français. Quand même.
Non, c'est gentil, mais c'est laid. Que voulez-vous?
Vous aimez bien, Stéphane?
Moi, j'aime bien. Je l'ai vu en vrai, le concert entier, enfin, à la télé, j'aime bien. Mais bon, c'est pas aussi beau que l'original.
Mais après, pour préciser, toute la première moitié de la chanson, elle la chante en espagnol. Et ça marche beaucoup mieux, en vrai. Quand elle se met à chanter en français, c'est un petit peu moins convaincant. Mais bon, okay.
Et bien voilà, ça fait 3 bonnes réponses. Oh, ça va. Allez, on joue avec les archives d'Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Bien entendu, sur Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Combien ? Ah.
On a souvent parlé dans cette séquence du musicorama des Beatles, à savoir ces concerts retransmis sur Europe 1 en direct. Eh bien aujourd'hui, on va évoquer les Rolling Stones. Là aussi, il y a eu des concerts en live depuis l'Olympia, mais aussi une interview de François Jouffa en 1964.
C'est lequel, les Rolling Stones,
celui-là ? Qui va vous rendre jaloux, Joe. Écoutez, François Jouffa interviewait les Stones.
On vous reproche en France d'avoir beaucoup copié les Beatles.
The Beatles, we are very good friends with the Beatles, but when we first met the Beatles a year and a half ago, they had short hair and then suddenly grew long hair.
Nous sommes très amis avec les Beatles et la première fois que nous les avons rencontrés, il y a un an et demi, eux, ils avaient les cheveux beaucoup plus courts que nous et depuis ils ont poussé, bien sûr.
Alors, il va. Vous avez vu comment ils prononcent les Beatles, les Rolling Stones?
The Beatles.
Ça va du Beatles.
Ouais, c'est un petit accent.
Ils disent même le A.
The Beatles.
Ouais, c'est un bon accent anglais.
Ouais. Alors, François Jouffa va leur dire que certains pensent que les Rolling Stones sont sales à cause de leurs cheveux longs. Et c'est Bill Wyman qui va répondre. Que va-t-il dire? Est-ce qu'il répond qu'effectivement ils sont sales et qu'ils préfèrent l'être? Est-ce qu'il va répondre que les Beatles ont la même longueur de cheveux qu'eux et qu'on leur dit rien à eux et que c'est pas juste? Ou est-ce qu'ils vont répondre qu'après tout, Louis XIV avait lui aussi les cheveux longs?
Les trois réponses sont... pourraient sortir de la bouche des Beatles, des Stones, vraiment, en plus c'est...
Bill Wyman, c'était le batteur?
Non, c'était le bassiste des Stones.
Ah bon, pardon, j'ai voulu faire la fixe.
C'était Charlie Watts, le batteur des Stones.
Ah oui, c'est vrai, Charlie Watts.
Alors Stéphane, une petite idée?
Non, c'est pas
facile.
Simple.
Hein.
C'est pas facile, ça. Ils auraient pu répondre les trois, en effet.
Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous, les amis?
Ils viennent de parler des Beatles, déjà, donc j'imagine pas qu'il va reciter les Beatles deux fois de suite.
Ouais, ça en ferait trop de pub.
Ou alors, il rebondit là-dessus en disant, justement, les Beatles, on leur dit pas qu'ils sont sales.
Mais je les vois pas dire à la fin, c'est pas juste, c'est pas quel numéro non plus.
Moi, je le verrais un peu, je m'en foutiste, la première.
Ouais, j'ai les cheveux sales,
un peu.
Ouais, mais moi, j'aime bien la référence à Louis XIV aussi.
Franchement, s'ils ont dit ça, c'est brillant.
Alors, est-ce qu'ils étaient assez malins, les Stones, en 64?
Est-ce qu'ils étaient à jeun, surtout, pendant cette interview?
Je sais pas, moi j'ai confiance en l'esprit britannique.
Alors, est-ce que vous suivez Louis XIV, Stéphane?
Je sais pas.
Ah, puis c'est vrai que la monarchie, ça leur connaît. Hein. Mm. Ça les connaît. Ça leur connaît.
Ah là là, ça serait ça génial. J'hésite.
Ça les connaît.
je vous rappelle que c'est la semaine de la francophonie,
tout à fait.
Moi, je suis Jean-Luc, parce que c'est un puits de science.
Non, mais c'est juste un feeling comme ça, j'ai pas de certitude.
Non, mais c'est vrai que ça...
L'esprit britannique, vous avez raison, la royauté, tout ça.
Je me dis.
Moi, je me range derrière les copains.
La couronne et machin.
Stéphane, partons pour Louis XIV.
Alors ?
Oui, moi j'ai toujours tendance à faire confiance à Jean-Luc aussi.
Vous avez raison.
Il est pas mauvais.
C'est une déclaration. C'est de l'amour inconditionnel là, à ce niveau-là.
Voilà, j'ai dû faire confiance.
Ce qui est terrible, c'est qu'il suffit que quelqu'un m'apprécie un tant soit peu, tout de suite. Vous devenez désagréable.
Mais pas du tout, je le souligne. Je le souligne. Bon, alors, vous suivez Jean-Luc, si j'ai bien compris.
Oui.
Donc, je bloque votre réponse et on va écouter la bonne réponse.
On dit en France et en Angleterre que vous êtes beaucoup plus sale que les autres chanteurs.
I don't think just because somebody's got long hair that makes them dirty. After all, Louis XIV had long hair.
Je comprends pas pourquoi les gens disent que l'on est sale lorsque l'on a des longs cheveux. Et de toute façon, Louis XIV aussi avait des longs cheveux.
Alors, c'est une perruque, alors c'est très drôle, mais il se trouve que Louis XIV était sale, donc
il faisait quand même pipi derrière les rideaux, quoi.
C'est vrai qu'il se lavait pas vraiment avec de l'eau.
Alors, c'est génial comme réponse.
C'était gonflé quand même de les traiter de sale.
Bah, c'était vraiment, en fait, quand on réécoute des archives d'interviews, surtout face aux artistes anglais, c'était très provocateur les journalistes français. Et alors, si jamais au cas où vous avez envie, si vous êtes sur Paris ou que vous passez par la capitale, si vous avez envie de manger sur les mêmes fauteuils que les Beatles et les Stones, vous allez au Coupe Chou dans le 5e arrondissement, à l'époque recevait dès la fin des concerts les Beatles et les Stones sur ruée là-bas.
C'est pas ce resto qui est
qui est un petit peu en sous-sol, exactement, qui ont
sans les Rolling Stones,
qui font de la joue de
Sophie.
Sans les Rolling Stones,
elle était avec les musclés.
En vanne.
On salue François Jouffin qui a 80 ans. Il a été quand même le plus jeune reporter d'Europe 1. Quand il entre dans la station, il a 19 ans en 1963. Et puis il a longtemps travaillé avec mon ami Simon. Voilà, donc je les salue tous les deux. 4 bonnes réponses.
Bravo, c'est le jackpot.
Oui, oui, oui.
Attention, moment délicat, 700 euros en jeu. Stéphane, vous connaissez la règle, il faut me donner 10 bonnes réponses en moins d'une minute. Ok. Oui. Exercice de rapidité.
Stéphane, ouais, si vous ne savez pas, vous passez.
Voilà.
Directement.
Pas de temps, hein, Stéphane, vraiment.
Attention.
Ok.
Top chrono. Qui est le plus vieux, Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger? C'est facile à dire en plus.
Stallone.
Arnold Schwarzenegger est né en Autriche ou en Suisse?
Autriche.
Akira Toriyama était le dessinateur de Dragon Ball ou Albator?
Dragon Ball.
Eric Carmen était le chanteur original de All By Myself ou All You Need Is Love?
All You Need Is Love.
Madeleine Chapsal était romancière ou ancienne ministre?
Romancière.
Combien il y a de I à Zelensky?
1.
Ludovic Cruchot dans Le Gendarme de Saint-Tropez, c'est De Funès ou Galabru?
De Funès.
Au tir à l'arc, le centre est rouge ou jaune?
Rouge.
Dans Les Valseuses, quelle actrice partage l'affiche avec Devers et Depardieu?
Miu Miu.
Quel célèbre détective est né de l'imagination de l'écossais Conan Doyle?
Sherlock Holmes.
Au cinéma, qui joue Conan le Barbare en 1982? Le volcan.
Oh là là,
Cruchot, c'est le bordel.
Oui, bonne réponse.
Bien joué. Oh, vous étiez pas loin, Stéphane.
Franchement, c'était une spéciale bafouille. Hein. Schwarzenegger, Stallone, Akira Toriyama.
Je pense que les auteurs vous ont bien cerné.
Plus dur à prononcer. Alors, la 4. Eric Carmen était le chanteur de...
All By Myself.
Vous vous souvenez de Bridget Jones?
Ah oui.
Bien sûr,
le pot de glace
en pleurnichant.
Voilà. Combien il y a de I à Zelensky? 0. C'est un Y. Au tir à l'arc, le centre est jaune.
Eh ouais, ça, j'aurais dû trouver.
Dans Les Valseuses, c'est Miu Miu. Ah bon, après, vous avez tout bon.
Bah oui. Oh là là, vous étiez pas loin, vous êtes bien.
Dommage. Hein. On vous embrasse. Bravo de vous être inscrit et d'avoir tenté votre chance. Peut-être reviendrez-vous?
Oh oui, avec plaisir. J'ai passé un super moment, vraiment.
Pour jouer sur Europe 1, envoyez Sophie par SMS au 739-21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS.
Vous retrouverez Sophie Davant entourée de sa bande de copains dès lundi prochain. Elle sera en direct pour une émission spéciale musique et elle recevra pour l'occasion Nicoletta qui fête ses 80 ans avec l'album Nicoletta l'intégrale. C'est la fin de nos programmes de nuit. On souhaite la bienvenue aux auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent à l'instant. Il est bientôt 5h. Nous sommes le jeudi 18 avril dans un instant. C'est Europe 1 Bonjour avec Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Je leur cède la place ce matin sur un titre de 1980 qui l'année suivante remportera plusieurs Grammy Awards, enregistrement de l'année, chanson de l'année et meilleurs arrangements, Sailing. Et oui, voici Christopher Cross. Quant à moi, je mets les voiles. Bon réveil avec Europe 1.
Down to paradise, at least it's not for me.
5h-7h,
Europe 1 bonjour.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bonjour à tous, chers auditeurs, vous êtes sur Europe 1 et vous êtes tous les bienvenus. On est très heureux de vous retrouver ce jeudi matin. Europe 1 bonjour, 5h-7h, on vous accompagne avec Omblin Roche. Bonjour Omblin.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Alors vous savez que toute la France, Omblin va se retrouver en vacances scolaires. En tout cas le temps d'un week-end,
c'est ça.
Hein, le week-end qui
ça
arrive.
Ça se croise tout.
Ben oui, parce qu'avant le retour des écoliers de la zone C qui étaient les premiers, eh bien ce sont ceux de la zone B qui vont partir demain soir. Et peut-être vous avec d'ailleurs, chers auditeurs qui nous écoutez de Marseille ou de Lille, de Strasbourg ou de Nantes, à moins peut-être que vous ne préfériez stocker des jours de congé sur votre CET, votre compte épargne-temps. Je sais que tout le monde n'en profite pas aujourd'hui, mais figurez-vous que ce sera peut-être bientôt le cas, puisque les partenaires sociaux sont en pleine négociation sur un compte épargne-temps universel. Il profiterait cette fois à tous les salariés du privé, et même vos jours de congé non pris vous suivraient si vous changez d'employeur. Côté patronat, le MEDEF l'a dit, il n'en veut pas, mais ce CETU pour universel a bien des chances de voir le jour. Jean-Christophe Repond pousse dans ce sens à la table des négociations. Le patron de l'Union des entreprises de proximité viendra tout vous expliquer à 7h-20 sur Europe 1. Ce printemps est décidément très arrosé et c'est pas Anissa Dadi qui va nous dire le contraire avec sa météo dans un instant. Alors on peut s'en réjouir, hein, et on vous le disait dès hier sur Europe 1, les nappes phréatiques, elles ont refait le plein. La période de recharge cet hiver a été exceptionnelle. Elle efface d'ailleurs presque partout en France les effets de la sécheresse. C'est ce que nous allons voir soir à 6h20 sur Europe 1 avec Violaine Beau. Elle est hydrogéologue au Service géologique national. Après le journal, Omblin, à 5h20, les initiatives en France.
Oui, avec une solution ce matin pour équiper son logement de panneaux photovoltaïques à moindre coût. Mon kit solaire, comme son nom l'indique, propose des kits de panneaux solaires à installer soi-même. L'idée est de rendre l'énergie solaire la plus accessible possible aux particuliers. On en parle dans 20 minutes.
Anissa Dadi est avec nous. Bonjour Anissa.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin, bonjour à tous.
Alors d'abord, coup d'œil sur votre histoire dingue. À 5h15 tout à l'heure, ce matin, on va traverser la Manche.
Oui.
Qui a donc réussi à faire tourner en bourrique la très sérieuse et efficace police anglaise?
Un petit oiseau.
Un oiseau, juste un oiseau.
Un petit oiseau. Ben, les policiers ont cru que leur voiture avait un gros problème. Et en fait, non. C'est un petit oiseau perché en haut d'un arbre qui les a fait tourner en bourrique. Je vais vous faire écouter ça ce matin.
Ah, ça s'écoute en plus.
Ça s'écoute.
Ça tombe bien, on fait de la radio. Rendez-vous à 5h15 avec vous, Anissa. Le temps pour ce jeudi, après la baisse des températures. On est le 18 avril et revoilà la neige.
Revoilà la neige à basse altitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il neige dès 500 mètres. C'est-à-dire que beaucoup... aujourd'hui, qui nous écoutent à 4h59, vont voir des sols blanchis ce matin dans les Vosges, le Jura, les Alpes. On a de la neige à partir de 600 mètres sur le Massif central, à partir de 900 mètres pour les premiers flocons sur les Pyrénées. C'est une nouvelle journée avec un temps instable. Je vous annonce pas franchement du très beau temps aujourd'hui, puisque déjà ce matin, on a des averses quasiment partout à 5h du matin, mais alors cet après-midi, ça va s'arranger. Et alors, je vais vous donner le nom des chanceux.